Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs pour le 12 février 2025. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah et bonjour tout le monde.
Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Quelles sont les nouvelles financières qui ont vraiment retenu ton attention cette semaine?
Donc, cette semaine, les marchés boursiers sont évolués un peu en dents de scie, là, mais généralement, la tendance demeure légèrement positive. Fait intéressant, là, on a vu avant-hier là, une annonce de nouveaux tarifs sur l'acier et sur l'aluminium. L'effet sur les marchés, essentiellement, les marchés ont complètement ignoré la nouvelle. C'était très, très timide comme réaction. Là, hier, une baisse de 27 points sur le TSX. Par contre, sur la semaine, le TSX est en hausse de 1,4%. Le S&P 500 est en hausse de 0,5%. Donc, mine de rien, là, depuis le début de l'année, le TSX fait très bien avec une hausse de 3,6%. Peut-être petite parenthèse ici, on se souvient, il y a quelques mois, on discutait de la banque Toronto-Dominion qui avait payé une amende importante, là, 3 milliards américains, pour des manquements à leurs mesures de contrôle sur le blanchiment d'argent. Le titre avait fléchi là, de milieu 80 vers les 73-74. Plusieurs personnes disaient « Ah, ben là, tu sais, qu'est-ce qui va arriver avec la banque TD? » Ben, tu sais, la banque TD, l'équipe de direction, le président était remplacé, ils ont fait des changements au sein de la banque. Et là, tranquillement, pas vite, là, le titre est remonté dans le 87$ à un cheveu de son sommet de l'année. Donc, comme quoi, des bonnes entreprises bien gérées, elles tombent pas à rabais pour rien, là. Tu sais, si on veut acheter une bonne entreprise à rabais, ben, il faut qu'il y ait quelque chose qui se soit passé qui fait qu'elle est à rabais. Et quand elle est à rabais, au lieu d'avoir peur, il faut en profiter. Puis éventuellement, ça se replace. Donc, d'autres titres ont fait des nouveaux sommets malgré toute cette volatilité. Power Corporation, Mastercard va très, très bien. On a Waste Connection, entreprise de gestion de déchets et de recyclage. Là, plusieurs clients en détiennent. Tu sais, c'est le genre d'entreprise dans un contexte où on tarif, pas tarif. Ben, tu sais, une entreprise de service est moins susceptible d'être affectée par des tarifs. Donc, on sent un certain vent de changement. Microsoft demeure une quinzaine de pourcents en bas de son sommet, mais il y a d'autres entreprises dans des secteurs un peu plus traditionnels qui performent quand même assez bien. Donc, la gestion active prend tout son sens. Là, on sait que si on avait simplement un indice S&P 500 dans son portefeuille, ben on aurait 30% des titres de technologie qui sont loin de leur sommet, alors qu'en dessous de ces entreprises-là, ben, il y a plusieurs entreprises traditionnelles qui performent très bien. Les taux d'intérêt relativement stables. Dollar canadien, toujours à 70 sous. On se souvient, il y a 10 jours, 15 jours, on était à 67 et des poussières. Donc, le dollar canadien se tient bien. C'est quand même un signe que le marché semble s'acclimater peut-être à l'incertitude que notre ami du sud de la frontière nous apporte avec ses nouvelles constantes, ses menaces constantes.
On verra bien, mais merci beaucoup, Martin. Je pense que c'est quand même des nouvelles positives.
Je pense que oui.
Donc, vendredi, c'est la Saint-Valentin.
Oui.
Si tu n'étais pas au courant, je te l'annonce. Ne t'inquiète pas, par contre. C'est pas parce que je veux faire des allusions pour que tu m'achètes des fleurs. C'est correct, je vais m'en acheter moi-même. Je te le dis parce que je crois que c'est vraiment un bon moment de parler de l'argent dans le contexte du mariage et de la vie de couple. Donc, des choix à faire avant de dire oui, hein, jusqu'aux ajustements financiers qui arrivent lorsque vous vous mariez ou vivez ensemble. Comment gérer l'argent à deux sans que cela ne devienne une source de tension? Si vous êtes déjà en couple, si vous avez des enfants, des petits-enfants, si vous connaissez des couples, peut-être leur envoyer notre balado de cette semaine comme cadeau de la Saint-Valentin. Le mariage, c'est un engagement avant tout émotionnel. Ouh, j'ai de la misère. Mais c'est aussi une union financière. Avant de sauter le pas, il est vraiment essentiel de discuter de la manière que chacun veut gérer ses finances en tant que couple. Cette conversation, des fois, ça peut être quand même assez inconfortable, mais elle est primordiale pour éviter des conflits futurs. Je pense que j'apprends rien à personne. Quelles sont les questions que les nouveaux couples devraient se poser, Martin?
Bien, nouveau couple, là, qu'on décide de se marier ou non, là, mais quand on s'engage dans une relation de vie commune, de demeurer ensemble, je pense que c'est important d'avoir la conversation financière. T'sais, comment on va gérer notre argent ensemble? Comment est-ce qu'on mélange notre argent ensemble ou chacun paye ses affaires, chacun de son bord? Il n'y a pas de recette magique pour le bonheur. L'important, c'est d'être toutes les deux sur la même page. Mais pour être sur la même page, ben, faut communiquer, faut s'échanger ça. T'sais, comment tu vois ça? Comment moi je vois ça pour trouver le compromis? C'est ça.
Puis vraiment, je pense que toi et moi, on prône beaucoup la transparence. Donc, d'être transparent, ça peut aider pour le futur, définitivement.
Exact. Donc, tu sais, si un a des dettes, l'autre n'en a pas, comment ça fonctionne? Donc, c'est vraiment, il faut communiquer puis faire un peu carte sur table. On va recommander, là, comme planificateur financier, des fois, on a des sujets plates à discuter avec nos clients. Puis, tu sais, c'est un peu jeter un pavé dans la mare là, de parler d'argent quand on veut parler d'amour. Right?
Oui, c'est ça.
Donc, de faire un inventaire des biens au début d'une relation puis de mettre ça dans un beau petit chemise brune, dans un classeur, là, c'est une bonne idée parce que si dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, ben quand on a commencé à sortir ensemble, qu'est-ce qu'on avait, tu sais, parce que les biens d'avant la relation demeurent toujours propres. Fait que c'est plus facile après ça, devenant une séparation, peut-être de démêler le puzzle si on peut ressortir notre vieux dossier puis dire, regarde, ça c'était à moi, ça c'était à moi, ça c'était à toi, ça c'était à toi. Ça règle déjà une partie, il restera juste les biens à acheter en commun par la suite.
Puis je pense que ça peut être plus facile pour les couples qui commencent comme nous, on a commencé où on n'avait rien.
Ouais, moi j'avais 800$ de dette sur une carte Visa, c'était à peu près l'ensemble de ma situation.
C'est ça, puis moi je pense que j'avais rien non plus. Mais ça peut être plus compliqué, peut-être plus tard dans la vie, qu'on a bâti un certain patrimoine.
Ouais.
Donc ça vaut la peine d'avoir une bonne discussion. Exact.
Souvent, une deuxième relation où les couples se forment, mais ils ont un passé financier, ils ont chacun des actifs, ben là, c'est important.
Puis en réalité, quand on devient en couple avec quelqu'un, on est en couple avec ses enfants, on est en couple avec son ex.
C'est important de discuter des priorités. T'sais, un nouveau couple, là, on se voit où dans 5 ans? On veut-tu des enfants? On veut-tu pas d'enfants? Moi, j'ai-tu l'intention de déménager aux États-Unis pour faire carrière, puis toi, ça te tente pas? T'sais. C'est peut-être une bonne idée avant de s'embarquer puis de tout mélanger les affaires, de parler de ces priorités-là. Est-ce qu'on voit la vie puis le bonheur de la même façon?
Bien, puis cette partie-là, ça peut vraiment avoir un impact sur nos finances.
Ouais.
Exemple, si je commence à bâtir un CELI ici au Canada, puis je m'en vais aux États-Unis, mais les États-Unis ne reconnaissent pas le CELI comme un véhicule qui protège contre l'impôt. Donc, ces genres de conversations-là peuvent avoir un impact financier aussi.
Exact. Une question de préférence, c'est quoi nos objectifs, nos rêves, nos projets à long terme? Donc, tu sais, discuter de tout ça, un nouveau couple, marié ou non, là, devrait penser à ça avant de s'impliquer dans l'union. Puis l'union, quand on rentre en union, là, c'est pas un choix, hein, tu sais. Un état de fait, être un conjoint de fait. Si on vit ensemble pendant un an, le fédéral nous reconnaît comme des conjoints de fait. Au Québec, c'est 3 ans de vie commune. Puis là, c'est pas « Ah, ben je décide à mon rapport d'impôt. » Non, non, si tu vis en union maritale depuis un an ou 3 ans, là, selon le palier, ben t'es un conjoint de fait. Ça a des implications.
Puis c'est sûr que quand on est un nouveau couple, puis on a certains projets, mais Martin et moi peuvent aider, on peut aider à planifier ces projets-là. Donc, ouais. C'est toujours bon si vous êtes un nouveau couple, si vous rencontrez quelqu'un, de nous laisser savoir. Et nous, ça commence doucement, mais éventuellement, les projets, les rêves deviennent réalité et on est là pour ça. Donc, autre question plus technique, c'est quoi un régime matrimonial? Quels sont les régimes matrimoniaux possibles au Québec? Donc, beaucoup de gens ne le savent pas, mais il y en a. Et quels sont les impacts de se mettre en couple ou de se marier?
Donc, le fait de se marier, commençons par, je décide de se mettre, avant de se marier, on va se mettre en couple. Là. Donc, mettons-nous en couple, c'est quoi les impacts? Ben, d'un point de vue fiscal, il y a beaucoup de crédits sociaux qui sont basés sur le revenu familial. Donc, déjà, le fait d'être ensemble, ben ça fait que notre revenu familial il est présumément comme deux fois plus élevé, là, peu importe, là, présumons qu'on gagne la même chose. Donc, ça se peut que j'avais droit à un crédit TPS que j'ai plus droit. Ça se peut que j'avais droit à un, je sais pas, le bon d'études canadien pour les familles à faible revenu. Puis là, pouf, on est ensemble. Là, on n'est plus à faible revenu parce qu'on a deux revenus. Donc, ça peut être des situations comme celle-là. Ça a un impact sur peut-être les régimes de retraite. Donc, si j'ai un régime à prestations déterminées, puis là, je continue de travailler, puis là, on devient conjoint de fait, ben automatiquement, le conjoint est un bénéficiaire privilégié de mon régime de retraite par défaut au Québec. C'est pas un choix, là. C'est that's what it is. T'as beau nommer quelqu'un d'autre comme bénéficiaire, c'est ton conjoint de fait ou marié qui est le bénéficiaire prioritaire de ton régime de retraite. Il y a l'histoire de l'union parentale là, qui rentre en vigueur. On en a déjà parlé brièvement. Si un enfant naît de l'union après, et là passez-moi les détails parce que je les connais pas précisément, c'est tout nouveau, là, mais je pense qu'après le 24 juin de cette année, là, on va devenir automatiquement en union parentale. Ça va créer donc un espèce de nouveau régime, pas matrimonial parce qu'on n'est pas nécessairement marié, mais similaire au patrimoine familial avec quelques différences.
C'est quoi le patrimoine familial?
Donc, et là, on va rentrer dans un régime matrimonial. Donc, quand on se marie, on est automatiquement sujet au patrimoine familial. Donc, en tant que couple marié, les biens du couple qui sont les régimes de retraite, la maison principale, la maison secondaire, la voiture de la famille, ce sont des biens partageables en cas de séparation, peu importe qui les a payés durant le mariage. Donc ça, on ne peut pas s'exclure du patrimoine familial au préalable. On peut renoncer au patrimoine au moment de la séparation uniquement. Donc, c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Le CELI n'est pas un régime de retraite. Donc, le CELI n'est pas inclus dans le patrimoine familial. Donc, là, par défaut, tout le monde qui se marie, patrimoine familial. Donc, il y a des implications qu'il faut peut-être connaître. Si on n'est pas sûr de notre couple, où ça s'en va, il y a quand même des implications automatiques. Là, nous, on s'est mariés, on s'aime, on est romantique, hein, Sarah? Est-ce qu'on a fait un choix au moment de se marier sur notre régime matrimonial?
C'est intéressant parce que les gens ne savent pas la réponse à cette question-là quand on leur pose.
Exact. Donc, qu'est-ce que le régime matrimonial? Donc, une fois qu'on a séparé le patrimoine familial, on va ensuite regarder bien, sur quel régime matrimonial êtes-vous marié? Êtes-vous marié sous le régime de la société d'acquêt ou le régime de la séparation de biens? C'est quoi ça, exactement? Donc, si je n'ai pas fait de choix, par défaut, nous sommes mariés, Sarah et moi, je te l'annonce, sous le régime de la société d'acquêt. Donc, un acquêt, c'est un bien qu'on a acquis durant notre union. Donc, par défaut, non seulement les biens du patrimoine familial sont partageables en cas de séparation, mais également tous les biens qu'on a acquis ensemble durant notre union. Donc, comme on avait exactement moins 800 $ pour moi puis zéro pour toi, donc tout ce qu'on possède aujourd'hui est partageable à deux, peu importe qui a gagné l'argent, donc parce qu'on est marié sur la société d'acquêt.
Yeah!
Mettons qu'on aurait dit, non, moi, on est jeune, moi, je suis hyper diplômé, toi, t'as moins de revenus, puis bon, je décide que je veux garder mes affaires. C'est correct. Ça s'appelle se marier sous le régime de la séparation de biens. Alors, comment je fais m'assujettir au régime de la séparation de biens? Je dois aller chez le notaire avant de me marier pour rédiger un contrat de mariage afin de ne pas être sous le régime de la société d'acquêt, qui, je vous rappelle, est le régime par défaut, et me marier sous le régime de la séparation de biens. C'est un peu comme ce qu'on appelle, on voit dans un film américain, là, les prenups, là, quand les riches et célèbres se marient. Là. Donc, c'est un petit peu de dire, ben, mes biens sont à moi, tes biens sont à toi, sauf le patrimoine familial. Donc, on ne peut jamais s'exclure du patrimoine familial. Donc, la maison, les régimes de retraite, la voiture familiale, ainsi de suite.
Puis, je pense que ça peut être une discussion, comme on a dit tout à l'heure, inconfortable. Mais si on a une certaine façon de penser là-dessus, vaut mieux avoir cette discussion-là au début. Puis, toutes les réponses sont bonnes pour toutes les personnes.
On va Et puis là, je pense que dans tous nos clients, il y en a deux à date que j'ai croisé qui ont ça. C'est une convention de vie commune.
Oui.
C'est quoi ça? Ben si on ne veut pas se marier, c'est correct. Hein? On n'est pas obligé de se marier. Au Québec, particulièrement,
ouais.
Les gens se marient moins. Mais on décide de vivre en couple, de partager des actifs, de partager une vie. Ben on peut rédiger un contrat de vie commune chez le notaire, puis de déterminer à l'avance, bon, ben la maison, moi, je gagne plus que toi, mettons. Bon, ben parfait, je paye deux tiers, tu payes un tiers. T'sais, donc, de rédiger des clauses qui vont déterminer comment on va partager notre vie financière et advenant une séparation, comment les biens vont être partagés. Donc, ça s'appelle une convention de vie commune. Tous les notaires vont fortement vous recommander d'en rédiger une. Très peu de gens le font parce que quand on est en amour, c'est pas à l'argent qu'on pense.
Mais bon. Non, puis pour être honnête, toi et moi, on n'a jamais pensé à l'amour, tout ce qui était juridique quand on s'est rencontrés, c'était juste l'amour.
Exact.
Puis peut-être une question pour toi, puis ça, c'est une question qu'on a souvent. Si je meurs sans testament conjoint de fait, si je meurs sans testament marié. Oui.
Ouais, donc si je ne suis pas marié et je décède, mon conjoint de fait n'existe pas dans le code civil au niveau des testaments. Donc mon conjoint existe pour mon régime de retraite, mon conjoint existe comme bénéficiaire par défaut, là, dans certains cas. Et mon conjoint de fait existe au niveau fiscal, mais mon conjoint de fait n'existe pas d'un point de vue testament. Donc, si on est conjoint de fait, on a des enfants, mon conjoint ou ma conjointe décède, elle n'a rien du tout. Ou en fait, moi je décède, ma conjointe n'a rien du tout. Si j'ai des enfants, ben ça s'en va aux enfants. Si j'ai conjoint de fait, mais pas d'enfant, ça s'en va aux parents, puis frères et sœurs.
Puis avec l'union parentale?
Avec l'union parentale, donc là, on va venir reconnaître le conjoint de fait. Si un enfant est né après le 24-25 juin de cette année, donc tu sais, ceux qui sont déjà conjoints de fait, déjà des enfants, prévoient pas en avoir d'autres, ça s'applique pas à vous.
Ouais.
L'union parentale va uniquement exister si un enfant est né après la date, pas à partir de cette date-là.
Puis si je suis mariée?
Si je suis mariée, donc le conjoint existe, mais par défaut, donc mettons qu'on a des enfants, puis je décède, donc tu n'hérites pas de toute ma succession, parce que mettons que j'ai pas de testament, tu vas hériter d'un tiers, puis les enfants deux tiers. Là, ça crée cette espèce de drôle de situation où ben, je suis copropriétaire de la maison avec mon enfant. Donc, si le toit coule, ben il faut réparer le toit, puis mon enfant détient deux tiers de la maison. Donc, l'enfant, en théorie, devrait payer pour le toit, puis la curatelle publique va devoir gérer les biens de l'enfant qui ont plus que 40 000 piastres.
Puis, c'est surprenant le nombre de personnes qu'on croise qui n'ont pas de testament ou qui n'ont pas relu leur testament depuis des années. Donc, nous, même si vous êtes en couple, vous êtes mariés, etc., on préconise de relire votre testament, juste la lecture aux 5 ans, au moins vérifier que tout fait du sens et tout est bien aligné selon vos objectifs. Et si vous avez besoin de faire des changements, nous appeler si vous avez besoin de notre support. On a un service d'analyse testamentaire qu'on a déjà eu des intervenants sur notre balado par le passé. On pourrait les réinviter. Mais c'est important d'avoir un testament, d'avoir un mandat de protection et que ça soit à jour.
Ouais.
Puis si je suis en couple, juste dernière petite question, et je reçois un héritage, quels sont les impacts?
Oui, donc couple, marié particulièrement, là, mais parce que si on est conjoint de fait, de toute façon, c'est chacun nos biens. Hein, il n'y a pas de partage des biens. Là, si on est capable d'identifier qui a payé quoi, c'est chacun de nos affaires. Mais maintenant qu'on est marié, société d'acquêt, mais la mère décède, je reçois 200 000 d'héritage. C'est un bien propre. Techniquement, là, le terme légal, c'est un bien propre. C'est un bien qui m'appartient en propre à moi tout seul. Il ne sera jamais partageable en cas de séparation. Par contre, je dois suivre la trace de ce bien-là. Donc, si je prends mon 200 000 que j'ai reçu, puis je dis « Ah, ben tiens, Sarah, on va rembourser notre hypothèque, le taux a monté, puis je rembourse l'hypothèque. » Ben j'ai perdu la trace de ce 200 000-là. J'ai donc transféré au patrimoine familial cet héritage-là, d'une certaine façon. Donc, on va souvent recommander, puis si... Là, je le mélange dans le reste de mes placements, puis là, ben, je fais des retraits puis des dépôts au fil des années, je fais des rendements puis tout ça. Puis là, ben, tu sais, 10 ans après, là, tu sais, c'est le bien, là, il est où, là, dans le paquet de mes actifs? Parce que l'argent, c'est fongible. Hein? 1 $, c'est 1 $. Fait qu'une manière, quand on le mélange tout, on n'est plus capable d'identifier le bien propre qui était le montant que j'ai reçu en héritage. On va souvent suggérer d'ouvrir un compte numéro 2, tu sais, Martin Bernier numéro 2 sur un numéro de compte complètement séparé, mettre l'argent là-dedans. Et là, ben, en cas de séparation, ce relevé-là, il est écrit, ça, c'est juste l'argent de l'héritage, il est facile à identifier. Donc, c'est important de suivre ça. Il y a une notion de remploi. Donc, on pourrait utiliser ce bien-là provenant de l'héritage puis dire, parfait, je vais acheter un chalet que je paye comptant, puis là, on va notarier, puis on va bien indiquer que l'argent est le remploi du bien propre pour assurer cette trace-là. Donc, on doit toujours légalement suivre la trace. Tu sais, en cas de séparation, c'est pas compliqué. Là, si on s'entend bien, tout va bien aller. Ben, généralement, c'est pas toujours comme ça que ça arrive. Là. Donc, on veut un petit peu prévoir les pires scénarios. C'est une bonne idée de garder de bien
documenter. C'est correct. Il y a des couples qui disent, ben moi, ça me dérange pas, je le mélange, puis c'est comme ça.
C'est ce qu'on a fait nous-mêmes.
Là. C'est ça. Ça appartient vraiment à chaque couple, mais c'est important pour nous de vous laisser savoir que ça existe et de garder ça en tête. Fait que des fois, notre rôle en tant que conseiller est difficile parce qu'on doit avoir des conversations quand les gens sont dans l'amour. Donc, ouais. On doit avoir des conversations difficiles, mais ça nous fait plaisir de les avoir et utiliser nous si vous avez besoin de nous.
Ça fait partie de notre devoir fiduciaire de planificateur financier.
Exactement. Merci beaucoup, Martin. Pour tous nos clients et partenaires, Mathieu, Michel, Martin et moi sommes toujours disponibles pour discuter de vos besoins, vos questions ou objectifs financiers personnels. Communiquez avec nous. Merci pour votre écoute cette semaine et à la semaine prochaine et joyeux Saint-Valentin!